Quand la mémoire du prince Philippe, opposant au régime nazi et premier membre de la famille royale britannique, à se rendre en Israël. Il est décédé à l'âge de 99 ans. Le prince Philippe est peut-être le membre le plus proche de la famille royale britannique, des juifs et des causes juives. Je vous parlerai d'une histoire juive aussi. Tout le monde sait qui est Rafael Nadal, c'est un joueur de tennis redevenu le numéro 1 qui a remporté 10 fois Roland Garros. Aussi, qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec l'histoire juive? Peut-être rien, mais peut-être beaucoup. Rappelez-vous, c'était le 11 avril 1960, le nazi Adolf Eichmann est enlevé par le Mossad. Je vous parlerai également d'un juste parmi les nations, Ernst Leitz, le fondateur de la fameuse société de photos Leica. Normalisation des relations avec Israël et le Soudan, cela ravive le souvenir de la petite communauté juive oubliée. Certaines voix ont même appelé au retour des juifs soudanais ayant quitté le pays. Un chiffre incroyable. À présent, les Émirats arabes unis vont investir 10 milliards de dollars, ou ça, bien sûr, en Israël. J'essaierai de vous raconter, si j'en ai le temps, comment l'Équateur a aidé les Juifs qui fuyaient la Shoah. Et je vous parlerai de l'historienne Emmanuelle Polak, surnommée l'Indiana Jones des tableaux spoliés. Cette dernière a été en effet chargée par le Louvre d'une mission très spéciale, établir la provenance des collections acquises entre 1933 et 1945. Mais avant tout cela, bien sûr, je vous propose un morceau de musique.
אותך אוהב הלילה דמדומים ומנגינות והמתנה שלי הלילה להיותן האכזבות אותך רוצה הלילה אין לי כלום גם לא מילים ואני חולם חושב עלייך את כמו מיליון שירים
for me money
חושב מה לעשות לבד כל לילה מה לי לילה מה לי אור מה לי
C'était Boaz Arabi avec Atli Laila. Le palais de Buckingham a annoncé sa mort vendredi. Le prince Philippe, qui était marié à la reine Elisabeth II depuis 74 ans, soit 5 ans avant de monter sur le trône, était en très mauvaise santé depuis un certain temps. Aussi connu sous le nom de duc d'Édimbourg, le soutien de Philippe aux causes juives et pro-israéliennes était vraiment profond. Sa mère, la princesse Alice de Grèce, a abrité une famille juive pendant la Shoah et est reconnue d'ailleurs comme l'une des moins de 30 000 justes parmi les nations par Yad Vashem, le musée israélien de la Shoah. Les quatre sœurs de Philippe épousèrent chacune des nobles allemands, dont au moins trois devinrent des nazis. Mais Philippe, instruit en Grande-Bretagne, s'est joint à l'effort de guerre allié et en tant qu'adulte, il a montré peu de patience pour les collaborateurs nazis. Il a d'ailleurs joué un rôle déterminant en faisant un paria de l'oncle de sa femme, Edward, qui, après avoir abdiqué du trône, s'est rapproché de l'Allemagne nazie. Et au fil des ans, le prince Philippe a pris la parole à plusieurs reprises lors d'événements juifs et pro-israéliens. Philippe, qui avait une passion pour la préservation de l'environnement, a pris la parole à plusieurs reprises lors d'événements du Fonds national juif et a prêté son parrainage royal à d'autres événements juifs. Il a été attaqué dans les années 60 pour avoir parlé à des groupes pro-israéliens et réputé insensible aux critiques. Il a ignoré les attaques. En 1994, le prince Philippe a été le premier de la famille royale britannique à se rendre en Israël lorsqu'il a accepté la reconnaissance de Yad Vashem de sa mère et a visité son lieu de sépulture situé au Mont des Oliviers à Jérusalem. À Yad Vashem, Philippe a planté un érable à la mémoire de sa mère qui était mariée au prince Andrew de Grèce et a aidé à abriter trois membres de la famille d'un défunt politicien gréco-juif dans son palais d'Athènes. La Gestapo se méfiait d'Alice, la questionnait même, mais la princesse, qui était sourde, faisait semblant de ne pas comprendre leurs questions et Alice est devenue plus tard une religieuse. La Shoah était l'événement le plus horrible de toute l'histoire juive et il restera dans la mémoire de toutes les générations futures. C'est ce qu'a déclaré Philippe à l'époque. C'est donc un geste très généreux dont on se souvient également ici des millions de non-juifs comme ma mère qui ont partagé votre douleur et votre angoisse et ont fait ce qu'ils pouvaient de manière modeste pour atténuer l'horreur. Fin de citation. La visite de 1994 a rompu avec ce qui était alors une interdiction officieuse, mais néanmoins contraignante, pour les membres de la famille royale de se rendre en Israël, qui avait été appliquée à la suite de la violence des combattants sionistes contre des cibles britanniques dans les années qui ont précédé la création de l'État d'Israël, dans ce qui était avant 1948 le mandat britannique sur la Palestine. Malgré tous ces attributs, la visite de Philippe en 1994 était à titre personnel. La maison royale a mis fin à sa politique de visite officielle en Israël en 2018 lorsque le prince William, petit-fils du prince Philippe, s'est rendu en Israël, dans l'autorité palestinienne et en Jordanie. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur chagrin après l'annonce de sa mort vendredi. La vie de Philippe a été passée dans le service public de son service actif dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, aux dizaines de milliers d'engagements qu'il a accomplis pendant 6 décennies et demie de fonction royale. Le président du Conseil des députés et des Juifs britanniques, M. Van der Zyl, ont écrit dans un communiqué. Le président de l'État d'Israël, M. Reuven Rivlin, s'est d'ailleurs joint à des dizaines d'autres chefs d'État qui ont exprimé leur sympathie à la maison royale. Reuven Rivlin a utilisé la phrase juive traditionnelle pour parler d'une personne décédée, terminant son tweet sur Philippe par « Que sa mémoire soit une bénédiction ».
אני הולך אלייך כל ימי אני הולך אלייך מסונבר אבנים פוצעות את כפותיי אבל אני אין לי מרגיש דבר
אני חוזר בארץ לא זוהה מושיט ידי ללטוף את שערי הנני כאן, אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שערי
הנני כאן, כמו ציפורים חגות הנני כאן, מביטים הגגות הנני כאן, כמו אבן בגדר כמו סלע, כמו באר אשר תמיד חוזר, חוזר
אני חוזר באלף גילוי אני מזיר מלך וגבזן ובלילות בבקות השואלים אני חולם והרבח בו בזמן
Hey, 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 hey,
Rappelez-vous, c'était le 11 avril 1960, le nazi Adolf Eichmann s'est enlevé par le Mossad. À la suite de la défaite du Troisième Reich, il réussit tout de même à s'enfuir en Argentine sous le nom de Ricardo Clement. Il esquive ainsi le procès de Nuremberg, qui se termine le 1er octobre 1946. Une fois arrivé en Amérique du Sud, il enchaîne différents travaux avant de devenir contremaître dans une usine Mercedes-Benz. Eichmann sait qu'il est traqué par des membres de la communauté juive, dont certains sont des rescapés des camps de concentration, comme par exemple Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. Mais l'ancien dignitaire SS a détruit les photos et tous les documents qui permettent de l'identifier. Il est donc quasiment impossible de retrouver sa trace. Mais c'est à cause en fait de son fils qu'Israël a pu le retrouver. L'adolescence se vante d'avoir un haut dignitaire nazi comme père. Or, figurez-vous qu'il fréquente une jeune fille juive dont le père Lothar Hermann est en contact avec le procureur de l'État allemand de Hesse, Fritz Bauer. En 1957, ce dernier informe le Mossad qu'Eichmann se cache en Argentine sous le nom de Ricardo Clement et après plus de 2 ans de traque, on retrouve finalement sa trace à Buenos Aires. Le premier ministre israélien de l'époque, David Ben-Gurion, déclenche l'opération Attila afin de juger Eichmann pour ses crimes. Encore faut-il pouvoir le capturer et l'exfiltrer discrètement. Les services secrets mettent au point un plan risqué car si l'Argentine en prend connaissance, elle pourrait protéger Eichmann. Le contremaître rentre de l'usine en bus tous les soirs aux alentours de 20h. Caché dans une voiture, le commando l'attend à l'arrêt où il doit descendre. Peu après 20h05, lorsque les agents aperçoivent Eichmann, ils se jettent sur lui et le ramènent dans leur véhicule tout en le cachant sous une couverture. Ils vérifient son identité puis l'enferment dans une planque. Le 20 mai, ils le transfèrent à bord d'un avion spécial de la délégation israélienne. Elle était alors venue assister au 150e anniversaire de l'indépendance de l'Argentine. Adolf Eichmann est ramené en Israël. Il est jugé pour ses crimes et condamné à mort par pendaison. Il est exécuté le 31 mai 1962 à l'âge de 56 ans. Adolf Eichmann, les yeux bandés avant son départ vers Israël. Vous pouvez voir cette image qui est réalisée par Zvi Aharoni, agent du Mossad, qui a retrouvé Eichmann en Argentine et participé à son enlèvement vers l'État d'Israël.
Kinderjorn, junge, schöne Blume. zu mir wird ihr Schein mehr nicht kommen. Jorn alte Treuerike, kalte Meure scheure dicke, haben eier scheinen Platz vor den Numen. Kinder Jorn, hab euch ungewohr. Mein getreue Mama, euch verleihen. Von der Stub, die Stock ein Fleck, Feigele, bis euch habe. Oi, wie schnell bin ich schön alt geworden.
Parlons à présent du Soudan. La normalisation des relations avec l'État d'Israël ravive le souvenir de la petite communauté juive oubliée et certaines voix ont même appelé au retour des juifs soudanais ayant quitté le pays. La normalisation des relations entre Khartoum et Israël est en route. Le Conseil des ministres soudanais a d'ailleurs approuvé le 6 avril une loi visant à abroger le boycott d'Israël en vigueur depuis tout de même 63 ans. Depuis 1948 et plus encore durant les 30 ans du règne autoritaire de l'ex-président Omar el-Béchir, le Soudan a entretenu une ligne dure envers Israël avec pour conséquence le départ des familles juives du pays. Cherchant à réintégrer le Soudan sur la scène internationale, le gouvernement de transition à Khartoum a accepté de normaliser ses relations avec Israël en échange d'une levée des sanctions américaines prises après les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, c'était en 1998. Un retournement d'alliance, même si le Soudan affirme aujourd'hui soutenir une solution à deux États pour les Palestiniens. Les fameux accords d'Abraham signés en janvier 2021 par le Soudan et Israël ont été conclus quelques semaines après le retrait de Khartoum de la liste noire américaine des États accusés de financer le terrorisme, ce qui faisait obstacle aux investissements internationaux au Soudan, et cela depuis des décennies. Le ministre israélien du renseignement, Eli Cohen, a été en janvier 2021 le premier responsable israélien à accomplir une visite officielle dans ce pays du nord-est de l'Afrique et en gage de sa nouvelle ouverture à la pluralité culturelle et religieuse. Le gouvernement de transition, nommé le 5 septembre 2019, a invité par la voix du ministre des Affaires religieuses les exilés à s'y réinstaller, un appel avant tout symbolique envers la petite communauté juive qui a quitté le pays depuis bien longtemps. La présence juive au Soudan remonte essentiellement à la fin du XIXe siècle, quand plusieurs familles venues d'Égypte s'installèrent dans ce qui n'était encore qu'une dépendance égyptienne. Au Soudan, les Juifs comptaient environ 250 familles au plus fort de leur présence dans les années 1940 et 1950, en tout cas selon l'historienne britannique Daisy Aboudi, petite-fille de Juifs soudanais. Mais la communauté s'est réduite comme peau de chagrin après la création en 1948 de l'État d'Israël et les tensions qui ont suivi avec le monde arabe. En 1956, la crise de Suez, durant laquelle la Grande-Bretagne, la France et Israël ont attaqué l'Égypte pour prendre le contrôle du canal, a précipité le départ des Juifs, tout comme l'indépendance du Soudan la même année. Les incidents antisémites, notamment dans la presse, sont alors devenus plus menaçants et les membres de la communauté ont commencé à quitter le Soudan, affirme sur son site Daisy Aboudi, qui œuvre en photo à la restitution de témoignages de cette diaspora. Mais le coup fatal pour les Juifs soudanais, en tout cas comme pour les Juifs égyptiens, a été la guerre des six jours en 1967, lorsqu'Israël s'est emparé du Golan syrien et du Sinaï égyptien. Quelques semaines plus tard, Khartoum a accueilli un sommet arabe où a été annoncée la résolution des trois fameux non, non à la paix, non à la reconnaissance et non à la négociation avec l'État d'Israël. La grande majorité des Juifs qui ont quitté le Soudan ont désormais 70, 80 ou 90 ans. Je pense que beaucoup aimeraient y retourner s'ils ont le sentiment qu'ils y seront en sécurité, mais il se révélerait en réalité très très difficile pour eux de s'y rendre à cause de leur âge. C'est ce qu'a encore déclaré Daisy Aboudi. Dans les années 70, la plupart des Juifs soudanais sont partis en Israël, en Angleterre ou aux États-Unis. Aujourd'hui très âgés, la plupart d'entre eux ne semblent plus aptes à entreprendre un périple vers leur pays d'origine, d'autant plus que la reconnaissance d'Israël reste encore contestée dans le pays.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
C'était bien sûr notre ami Enrico Macias avec « J'ai quitté mon pays ». Je voudrais maintenant vous parler d'un juste parmi les nations. Il s'agit de Ernst Leitz, le fondateur de la société Leica. La société Leica est le pionnier des appareils photo 35 mm. C'est également la marque la plus prestigieuse d'appareils photo Leica, d'une entreprise familiale et une entreprise à vocation sociale qui, pendant la période nazie, agit avec une rare générosité et grande modestie. Ernst Leitz, concepteur et fabricant allemand des plus célèbres appareils photographiques, a sauvé ses juifs. Ernst Leitz II, le patriarche protestant au regard d'acier qui a dirigé la société durant la Shoah, a mérité le titre de Schindler de l'industrie de la photo. Dès qu'Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne en 1933, Ernst Leitz II commença à recevoir des appels angoissés de ses collaborateurs juifs demandant son aide pour les faire sortir, eux et leur famille, du pays. En tant que chrétien, Leitz et sa famille à Nuremberg étaient à l'abri de l'Allemagne nazie et des lois qui restreignaient la circulation des Juifs et leurs activités professionnelles pour aider ces travailleurs juifs et leurs collègues. Leitz mit silencieusement en place ce qui est connu par les historiens de la Shoah comme « the Leica Freedom Train », un moyen détourné pour permettre aux Juifs de quitter l'Allemagne sous le couvert de recrutement par Leitz à l'étranger. Employés, commerçants, membres de la famille et même les amis des membres de la famille furent ainsi affectés à la vente des Leitz en France, en Grande-Bretagne, à Hong Kong et même aux États-Unis. Cette activité s'intensifia après la nuit de cristal de novembre 1938, au cours de laquelle des synagogues et des magasins juifs furent brûlés dans toute l'Allemagne. Les employés allemands descendaient du paquebot sur un quai de New York et prenaient la direction de Manhattan de Leitz, la société Leitz, où ils trouvaient rapidement un emploi dans la photographie. C'est ainsi que des concepteurs, des techniciens, des vendeurs, des distributeurs et des écrivains de la presse photographique émigrèrent de l'Allemagne nazie. Chaque nouvel arrivant avait autour du cou son symbole de la liberté, un appareil photo Leica. À ces réfugiés était versé par Leitz une allocation jusqu'à ce qu'il puisse trouver du travail. L'histoire du lac à Freedom Train fut à son apogée en 1938 et au début de 1939. Puis, avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, quand l'Allemagne ferma ses frontières. À ce moment, des centaines de Juifs en danger s'étaient échappés en Amérique grâce précisément aux efforts de Leitz. Comment Ernst Leitz II et son personnel ont-ils pu agir ? Leitz était une marque internationalement connue qui avait du crédit pour le Reich. La société produisait des télémètres et autres systèmes optiques pour l'armée allemande. En outre, les nazis avaient désespérément besoin de devises étrangères et Leitz était le seul sur le grand marché des produits optiques vendus aux États-Unis. Malgré cela, les membres de la famille et l'entreprise Leitz eurent à pâtir de ses actions. Un haut dirigeant de la société, Alfred Turk, fut emprisonné pour avoir aidé des Juifs et fut libéré après le versement d'un important pot de vin. La fille de Leitz, Elsie Kuhn Leitz, fut également emprisonnée par la Gestapo après qu'elle fut arrêtée à la frontière, aidant des femmes juives à passer en Suisse. Elle fut finalement libérée, non sans subir un interrogatoire extrêmement dur. Elle fut également soupçonnée d'avoir amélioré les conditions de vie de 700 à 800 travailleuses forcées ukrainiennes, toutes des femmes qui avaient été affectées à des travaux dans l'usine en 1940. Après la guerre, Kuhn Leitz reçut de nombreux honneurs pour son aide humanitaire et pour ses efforts, parmi eux les Palmes académiques en France en 1965 et la médaille d'Aristide Briand de l'Académie européenne en 1970. Pour quelle raison cet épisode fut-il rendu public si tardivement ? Selon le regretté Norman Lipton, un écrivain indépendant et rédacteur en chef, la famille ne voulait pas de publicité pour ses efforts héroïques. Ce n'est qu'après que le dernier membre de la famille Leitz soit décédé que le Leica Freedom Train fut enfin révélé. Il fait maintenant l'objet d'un ouvrage, The Greatest Invention of the Leitz Family, The Leica Freedom Train, du rabbin Smith d'Abba Frank, né en Californie et qui vit actuellement en Angleterre.
Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines, couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec tes pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères juives. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur. Tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, les mères juives. Ta femme, c'est presque une gamine. Comment peut-elle veiller sur toi? Elle sait même pas faire la cuisine. Heureusement que je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères, tandis que moi, je te connais, je fais les plats que tu préfères, je te tricote des cache-nez, des paires de gants, des pull-overs. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères. Viens mon chéri, viens mon gamin, ne crains rien, je ne pleure pas, même quand tu ne m'appelles pas. Je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont très tendres et naïves, l'énergie. Quand ma petite mère parlait ainsi, ça me semblait insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
Certains d'entre vous se sont peut-être reconnus dans cette belle chanson de Georges Moustaki sur les mères juives. Alors maintenant, un chiffre incroyable. Les Émirats Arabes Unis ont annoncé le lancement d'un fonds de 10 milliards de dollars destiné à investir dans divers secteurs en Israël. Ce fonds, constitué d'investisseurs publics et privés, financerait notamment des projets d'infrastructures. Il est clair que les Émirats ont une confiance énorme aux performances de l'État d'Israël. L'Abu Dhabi Investment Authority, l'ADIA, est le plus important fonds souverain au monde en termes d'actifs sous gestion. Créé par Zayed Ben Sultan Al-Nahyan le 24 février 1977, l'ADIA est basé à Abu Dhabi, le plus important des 7 Émirats de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Il est d'ailleurs chargé d'investir les revenus pétroliers de l'Émirat d'Abu Dhabi à travers le monde pour les faire fructifier. ADIA est entièrement détenu et gouverné par le gouvernement d'Abu Dhabi et présidé par le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Bien que le montant exact de ses actifs n'ait jamais été publié par ADIA, le fonds devrait gérer plus de 875 milliards de dollars américains d'actifs. Le 26 novembre 2017, il achète pour 7,5 milliards de dollars 4,9% de Citigroup, la première banque américaine, et en devient le premier actionnaire devant la Kingdom Holding Company du prince Al-Walid Ben Talal Ben Abdel Aziz Al Saud, qui en détient tout de même 4,3%.
שוקולד שאני עצובה, הוא תמיד כזה נחמד. יש לי חבר ג'ינג'ים למשים איתו הכי כיף לעשות חלים נכון שהוא ממני לגמרי אחר אחר כזה חבר איך אפשר לוותר יש לי חברה שמורה איתה תלמים שתינו מגדלות גור חתולים נכון שהיא ממני לגמרי שונה אבל היא חברה כזאת נפלאה
C'était Sarit Khadat. Alors, quiconque s'intéresse même de loin au tennis sait qui est Rafael Nadal. C'est ce joueur de tennis redevenu le numéro 1 qui a remporté 10 fois Roland-Garros. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, probablement encore comme le meilleur joueur sur terre battue. Se remettant de mauvaises blessures, il a d'ailleurs lutté brillamment pour son retour en tant que numéro 1. Aussi, qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec l'histoire juive ? Peut-être rien, mais peut-être beaucoup. Alors écoutez, c'est un peu long, mais intéressant. Puisque l'essentiel de l'histoire juive se définit par les persécutions, sa partie essentielle en passait par le décodage d'un passé secret, c'est ce qui nous ramène à Nadal. Cette légende du tennis est en fait originaire de l'île de Majorque en Espagne. Et en 1492, les juifs de Majorque ont soit été expulsés, soit convertis de force. Ceux qui se sont convertis n'ont jamais été acceptés. Jusqu'à très récemment, on les appelait les chuetas, considérés comme une race à part. Les gens refusaient de se marier avec eux et ils ne pouvaient pas aspirer à des positions sociales élevées. Tout le monde savait qu'ils étaient juifs. Une église locale conservait d'ailleurs la liste de leurs membres au cas où il faudrait la produire publiquement. Récemment, la libéralisation a peu à peu changé tout cela et certains chouettas sont revenus vers le judaïsme. L'un d'eux est même devenu rabbin et s'en est allé vivre en Israël. Le Majorquin Rafael Nadal est-il un chueta ? Probablement. Son nom exact est Rafael Nadal Parera. Parera est un nom usuel chez les conversos, les convertis, qui signifie poirier. C'est un type de nom très neutre, tel qu'en adoptaient les juifs baptisés au XVe siècle. Des noms comme Parera, Torres et Medina reflètent habituellement un passé juif considéré comme honteux ou caché. Certains de ces chrétiens nouvellement admis ont essayé de prouver leur loyauté à leur nouvelle religion en étant encore plus antisémites que les chrétiens de vieille souche. Mais d'autres ont défendu leur corps légionnaire et fidèles conversos. Geronimo Nadal faisait partie de la seconde catégorie de ce qu'on peut qualifier des braves types. Tout comme le joueur de tennis des temps modernes, au XVIe siècle, Geronimo Nadal venait de la région de Palma de Majorque. Il fut l'un des premiers jésuites représentant Ignacio de Loyola, le fondateur de l'ordre des jésuites. Et à une époque de politique rigoureusement anti-conversos, Geronimo Nadal était bienfaisant envers les conversos en leur permettant d'intégrer l'ordre. Nous tenons pour un fait établi que Geronimo Nadal parlait couramment hébreu. En fait, il était tellement féru de connaissances en textes religieux juifs que l'histoire a retenu que lorsqu'il était en Avignon, en France, dans les années 1560, les juifs de l'endroit lui ont offert le poste de grand rabbin. Rabbi Nadal, Aussi, il semble bien établi que Nadal soit un nom de conversos. Il existe bien d'autres preuves. Les archives de l'Inquisition espagnole nous apprennent qu'au moins trois conversos qui portaient le nom de Nadal ont été jugés comme des hérétiques judaïsés à la fin du XVe siècle et au moins un Nadal appelé Rafael Nadal, tout comme le joueur de tennis fut jugé à la fin du XVIIe siècle. Mais l'histoire des Juifs de Majorque remonte bien avant les temps médiévaux. Ils semblent avoir vécu là depuis au moins le premier siècle de l'ère commune. Il y a même de bonnes raisons de croire que certains des Juifs forcés par l'Inquisition à se convertir pourraient être des descendants de Jésus et de ses premiers disciples. Trois pierres gravées sont d'ailleurs exposées au musée archéologique de Majorque. Ces vestiges ont été découverts dans un environnement du IIe siècle paléo-chrétien, c'est-à-dire pré-chrétien. Il est d'ailleurs largement admis que ces vestiges, représentant des poissons, constituent un des premiers symboles du christianisme. On a cependant découvert ces trois pierres dans la tombe d'un homme enterré en direction de Jérusalem. Elles portent même des inscriptions en hébreu. Elles révèlent le nom de l'homme enterré dans cette tombe. Il s'appelait Samuel, fils de Chanaï. Alors, s'agissait-il d'un des premiers Hébreux disciples de Jésus partis de Terre Sainte vers Majorque ? Point d'interrogation. De façon incroyable, il existe une tradition sur cette île disant que Jésus lui-même aurait débarqué à cet endroit. Les Majorquins vénèrent les pas sacrés de Jésus et cela jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, et c'est très rare, Magdalena, c'est un nom commun parmi les Chuetas. Il y a même une famille Chueta qui revendique sa descendance directe de Jésus en personne, voire le thème apocryphe du film de Martin Scorsese, « La dernière tentation du Christ » qui date de 1988. Aussi subsiste-t-il la blague spirituelle à Majorque, selon laquelle l'Inquisition semble avoir forcé les descendants des premiers disciples de Jésus et de sa famille à se convertir du christianisme que Jésus enseignait au christianisme tel que l'Inquisition l'a développé. Clairement, les Nadal font partie de cette histoire secrète. Ils font partie de l'épisode des conversions sous la contrainte, des procès de l'Inquisition et de l'histoire du judaïsme vécu dans le plus total secret. Je ne sais pas si Raphaël Nadal est au courant de quoi que ce soit à ce propos, peut-être écoute-t-il Radio Judaïca, mais si c'est le cas, il peut revendiquer son passé juif en même temps qu'il aspire à retrouver sa couronne de numéro 1 mondial de tennis. Tout comme pour les Chuetas, avec ou sans Rafael, il est temps de revenir à la maison. Peut-être l'État d'Israël pourrait-il faire écho aux dernières propositions du gouvernement espagnol, c'est-à-dire exactement comme l'Espagne offre aux Juifs d'ascendance espagnole d'accélérer leur acquisition de la nationalité espagnole, Israël pourrait offrir aux conversos en général et aux Chuetas en particulier une acquisition plus rapide de la citoyenneté israélienne. De cette façon, chers amis, Rafael Nadal pourra peut-être représenter Israël lors de futurs championnats de tennis.
וזיכרוני הראשון אם יופייך אינו מטעה אותי משליך גיטרה ואבי עליי צורח ואימי אומרת זה אחותה שלי ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח זיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי עוזב את הבית אל סיכוני הזמן כששאלתי אותך האם תהירי לעולמים ענית תביט לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המזכר והם צרכו תורידו תנמו חימה תוקסידו ורק אחד אמר ילד ילד או תוריד את הירח בשבילה הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר
צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי. קשה להגיד חבל או לומר אולי. במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם מחבלי. לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח, כשאתה שוכח, כן, כן, אתה מסכן. יש גשם בשמיים, אין ירח בינתיים, וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם. הייתה תקופה כזאת כשהאושר בא בזר, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר.
שעזבת הרבה השתנה כאן, זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ, ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל התפוצץ. ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה קרקו, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר, זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כאב הולך וחוזר. ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, זה עולם אלקטרוני, קצת קשה לדבר, ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר, הנר שלך מאיר עדיין בוער, ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זר קוצים רחני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני. מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, הנר שלך מאיר עדיין בוער.
Et voilà, c'est ici que s'achève cette émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée le dimanche de 18 à 19h et que vous pouvez la retrouver bien sûr sur podcast. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Shabbat Shalom, Agit Shabbos. En ce qui concerne la suite des émissions sur l'antenne de Radio Judaïka, ce sera place aux informations. Alors prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une très bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Judaïka.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenance d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Ce n'est plus qu'un système.